Bienvenue dans La Boucle est bouclée, le podcast d'INRAE. Du champ à l'assiette, du grain de sable à la planète, d'une goutte d'eau à l'océan, on suit le chemin de la recherche. Dans La Boucle est bouclée, on fait le tour de la question sans tourner en rond. Je suis Laure Caruso, scientifique et réalisatrice de podcast. Premier mode de conservation inventé par l'homme. On me retrouve dans de nombreux aliments comme le saucisson, le vin, les pickles, la choucroute ou les tendances du moment, le kombucha ou le kéfir. Je donne un goût et une texture particulière aux aliments et on me découvre des bénéfices pour la santé. Je suis... La fermentation.
Oui.
Comment ça marche? Pourquoi les chercheurs s'y intéressent? Quels sont les effets sur le microbiote intestinal? On vous dit tout sur le sujet avec Marie-Christine Champomier-Vergès, directrice de recherche à INRAE au sein de l'équipe Michaelis pour microbiologie de l'alimentation au service de la santé.
Et dans ce laboratoire, dans cette équipe en particulier, on travaille sur l'écologie microbienne des aliments et donc sur les questions des aliments fermentés.
Si ce mode de conservation et de consommation des aliments revient à la mode ces dernières années, il n'est pourtant pas nouveau. Des traces de pain et de bière, mais aussi de kéfir, une sorte de lait fermenté, datant de moins 8000, ont été retrouvées lors de fouilles archéologiques sur des tombes égyptiennes. Alors la différence avec aujourd'hui, c'est que l'homme ne savait pas que c'était un aliment fermenté.
Le sucre du lait, ce sont les bactéries qui sont dans le yaourt qui vont permettre de digérer. Donc tout l'inconfort digestif à la consommation de lactose pour les gens qui sont intolérants est compensé par le fait qu'on mange du yaourt.
Et c'est au milieu du 19e siècle que Louis Pasteur découvre que ces aliments sont obtenus par des bactéries. Et c'est en connaissant et en isolant ces micro-organismes qu'on a pu développer des produits fermentés standardisés qu'on retrouve dans l'industrie agroalimentaire comme les yaourts ou le fromage.
Il y a des observations anciennes qui avaient montré le bien-être du yaourt pour soigner des problèmes intestinaux ou certains rois qui avaient découvert qu'en mangeant certains produits, il y avait une amélioration de ça.
Avant de vous expliquer comment ça marche, je précise que la fermentation des aliments est utilisée partout dans le monde et dans toutes les civilisations. C'est plus de 5000 produits fermentés qui sont consommés. Alors si en Europe, on fermente plutôt des aliments issus des animaux, donc les produits laitiers et carnés, en Asie, il y a une grande tradition de fermentation de végétaux, comme le kimchi par exemple, une sorte de choucroute pimentée. Ou encore en Afrique, où là, on fermente plutôt des céréales.
Il y a une notion d'hédonisme aussi dans la consommation de ces aliments. Et dans beaucoup de cultures, ça sert aussi à ça, cette diversification par la fermentation.
Avant de vous dire pourquoi les scientifiques s'y intéressent, petit tuto fermentation. Pour fermenter, il faut trois éléments. Une matière première, un aliment par exemple, des micro-organismes, les levures ou bactéries, et un environnement dans lequel tout ça va pouvoir se développer. Ensuite, la chimie opère. Le sucre contenu dans les aliments est transformé en acide sous l'action des micro-organismes.
Et paf, ça fait des chocs à pic.
Et d'ailleurs, l'acide produit empêche le développement des bactéries pathogènes, ce qui va permettre l'effet conservateur sans conservateur. Alors attention, c'est pas miraculeux comme le dit Marie-Christine Champomier-Vergès.
Il ne faut pas jouer les apprentis sorciers. On ne peut pas tout fermenter comme ça sans risque. Il faut faire attention. Effectivement, ça peut très bien se passer, ça s'est passé bien pendant des millénaires. Il y a probablement de nos ancêtres qui sont un peu décédés parce qu'ils avaient mangé un fromage qui n'était pas bon, qui avait des mystères. Enfin, il faut quand même dire ces choses-là. Il ne faut pas laisser croire que tout est merveilleux parce qu'on a mangé des aliments fermentés.
Bon, bah comme ça, on est prévenu. Il y a plusieurs types de fermentation, mais celle qu'on connaît sûrement le plus, c'est la fermentation alcoolique, celle qui donne le vin ou la bière. Mais aussi la fermentation acétique, où là, c'est l'alcool qui se transforme en acide, pour donner le vinaigre, par exemple. Ou encore la fermentation lactique, qui donne le fromage, le yaourt et le fameux kéfir. Et chaque type de fermentation permet de libérer de nouveaux composés, comme des arômes ou des vitamines, et c'est là où ça devient intéressant.
Quand on mange le produit fermenté, on mange en même temps ce qu'il a produit, mais aussi les micro-organismes qui ont contribué à faire cette production de métabolites. C'est le cas du fromage, des aliments fermentés, de la choucroute, du saucisson.
En plus du bon goût et de leurs propriétés conservatrices, les aliments fermentés ont un potentiel santé non négligeable, puisqu'ils vont venir enrichir notre microbiote. Rappelez-vous dans l'épisode précédent,
que je vous invite à aller écouter,
je vous parlais des milliards de bactéries intestinales qui forment notre microbiote. Et le lien fort entre une perte de diversité de ces bactéries et l'augmentation croissante de nombreuses maladies chroniques. Donc, en consommant les aliments fermentés, on vient enrichir notre microbiote intestinal. Et d'ailleurs, un des enjeux de la recherche, c'est de s'intéresser aux propriétés des micro-organismes et de voir comment ils peuvent être bons pour la santé.
Il faut absolument boire du vin d'Alsace avec la choucroute, monsieur.
Oui, monsieur Pierre Ponte. C'est pour la digestion. Vous savez, la choucroute, elle a poussé en Alsace. À quelques kilomètres, le long des Vosges, pousse le Riesling.
Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Comment est-ce que les chercheurs regardent ça ? Eh bien, comme pour l'analyse du microbiote, on a besoin de caractériser et comprendre les micro-organismes. On vient donc extraire puis séquencer l'ADN des bactéries des aliments fermentés, puis on peut tester des combinaisons de micro-organismes et voir comment ils interagissent avec les matières premières. Et en fait, c'est la somme de ces interactions qui intéresse les chercheurs, en particulier pour voir comment ils peuvent interagir avec le microbiote intestinal.
Les enjeux, c'est d'avoir une vision un peu plus rationnelle des interactions qu'il pourrait y avoir entre ces aliments et donc les micro-organismes qu'ils hébergent et notre microbiote intestinal.
L'autre enjeu de la recherche, c'est de développer de nouveaux produits fermentés à base de végétaux pour rééquilibrer notamment les apports en protéines à 50-50 animal et végétal.
Par exemple, les végétaux, il n'y a pas de vitamine B12. Donc, si on va vers une alimentation plus végétalisée, voire complètement végétalisée pour certains, il y a un déficit en vitamine B12, puisqu'elle est apportée par les produits animaux. Donc, par exemple, comment on pourrait, avec des micro-organismes qui, eux, seraient capables de le produire, cette vitamine B12, compenser ça ? Comment on pourrait enlever un certain goût pas forcément très appétant ?
Voilà pourquoi des projets comme Ferment du futur, à plusieurs dizaines de millions d'euros, voient le jour, car les aliments fermentés offrent de nombreuses possibilités qu'il faut parvenir à évaluer et à tester. La méthode empirique, hein, ça va 2 minutes. Donc si on résume, les aliments fermentés seraient des alliés de notre microbiote, mais aussi des pistes pour des régimes moins carnés et moins transformés, avec du E171, E356, E211, E225, E312, E257, E258, E259, E260, E261, E262, E263, E264. Autrement dit, meilleur pour la santé et la planète. Et la boucle est bouclée.